Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Des questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur.
Quand tu es triste, est-ce que tu sens que le bonheur est toujours là ?
Eh bien, merci Diego pour cette excellente question, très mature pour ton âge. Et je sais qu'elle vient de ton cœur et que c'est une vraie question que tu poses et que beaucoup de personnes se posent. Elles pensent éventuellement que quand on est triste, en fait, on est forcément malheureux. On n'est pas heureux du tout, en fait. Moi, je ne le pense pas. Je pense que quand on est triste, notre bonheur, il est toujours là, mais il est en attente. Il est disponible, peut-être pour nous consoler. Il est disponible pour nous aider à nous projeter dans un autre moment où on va retrouver notre bonheur. Il est là aussi pour nous rappeler l'essentiel. Lorsque je m'appuie sur la logique émotionnelle, un peu, je dirais, mon école de psychologie, eh bien, lorsque je suis triste, je me pose la question, mais finalement, quel est mon besoin là tout de suite ? Si je suis triste, c'est que j'ai des besoins qui ne sont pas assouvis, qui ne sont pas satisfaits. Et ces besoins, en psychologie et en logique, notamment émotionnelle, on appelle ça le besoin de réalité d'être, c'est-à-dire, finalement, j'ai du mal à être, j'ai du mal à mon être, et j'ai du mal, en fait, à être. Donc, lorsqu'on est triste, on est souvent environné par une situation qui nous rappelle de mauvaises choses ou qui nous fait qu'on ne se sent pas heureux, tout simplement parce que la vie, à ce moment-là, a perdu un petit peu de son sens. C'est-à-dire on n'est plus autour de nous dans un environnement harmonieux, dans un environnement apaisé, et on cherche du sens, finalement. Et c'est en ça que la tristesse, elle a aussi un intérêt, puisqu'elle nous aide à retrouver du sens et à retrouver aussi autre chose qui est finalement le sens de la responsabilité. C'est-à-dire que grâce à la tristesse, on cherche ces marges de manœuvre. On cherche finalement, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je suis obligé d'accepter la situation actuelle ? Est-ce que je suis dans une forme de fatalité ? Ou bien est-ce que finalement j'ai un moyen, peut-être pas de contrôle, mais j'ai un moyen d'action ? Et quels seraient mes moyens d'action ? Et finalement, qu'est-ce que je peux encore décider ? Qu'est-ce que je suis finalement en train de supporter, d'accepter, mais qu'est-ce que je peux éventuellement changer ? Et là, ça devient intéressant parce que je peux trouver, même dans cette situation un peu délicate, des zones, des marges, des moments où je peux faire de vrais choix, redevenir l'acteur de ma vie. Et si même tout devient très compliqué et que j'ai plutôt envie de me replier sur moi-même, si j'ai plutôt envie de pleurer, je me dis, mais finalement, c'est à la fois en moi-même aussi que se trouve la tristesse, mais aussi le bonheur. La joie et la tristesse sont inséparables. On ne peut pas voir l'un ou l'une sans l'autre. Et donc, si ce bonheur est en moi, alors je prends conscience de moi. Alors cette prise de conscience est aussi une prise de responsabilité. Et donc je peux, même en étant triste, sentir que mon bonheur est toujours là. C'est mon allié. Si ce bonheur est continu, si ce n'est pas simplement une suite de plaisirs, alors oui, je n'aurai plus de plaisir. Mais si j'ai un bonheur profond, un bonheur qui est une joie, qui me permet d'aborder n'importe quelle situation avec un nouveau regard et avec beaucoup d'espoir, eh bien à ce moment-là, en effet, je vais continuer à sentir mon bonheur, même dans la tristesse.
Le bonheur est-il récent ? Est-ce que l'être humain a toujours recherché le bonheur ? Les hommes préhistoriques connaissaient-ils le bonheur ?
Bien, merci Myriam, maman d'Angèle, une camarade de classe de Diego. Et donc Myriam, j'ai pris ta question et j'ai demandé une voix synthétique de la dire. En effet, c'est une question qu'on se pose et depuis très longtemps, finalement. Est-ce que le bonheur est bien quelque chose de très ancien? Est-ce que finalement ça existe? Est-ce que c'est bien en nous? D'où vient-il? Alors du coup, avant de pouvoir te répondre, j'ai quand même fait quelques recherches et j'ai retrouvé en effet quelque chose qui est venu compléter ce que j'avais déjà abordé dans mes précédentes émissions, c'est-à-dire le côté universel du bonheur. Il n'y a pas un seul peuple sur Terre qui ne soit pas en quête de bonheur. Et le côté aussi intemporel du bonheur. Donc du plus loin qu'on puisse trouver des traces écrites de réflexions de nos ancêtres, eh bien on trouvait déjà des réflexions sur le bonheur. La philosophie est née aussi de cette compréhension de la vie et de cette quête du bonheur. Donc elle est bien inscrite, on va dire, probablement dans nos gènes. C'est-à-dire que, d'après l'historien François Durpère, qui a écrit une histoire mondiale du bonheur, il remonte là aussi au plus ancien temps de l'homme, et il indique en effet que le bonheur est considéré finalement comme le moteur de l'humanité. Sans cette quête du bonheur, l'humanité serait peut-être restée au même stade de satisfaction d'une situation, on va dire, animale. Et pourtant, il y avait la quête de quelque chose d'autre, d'une réponse peut-être à des mystères. Et donc dans cette universalité et cette intemporalité du bonheur, on retrouve aussi finalement nos quatre dimensions que j'aime souvent rappeler, c'est-à-dire une dimension de croyance, une dimension d'idées, de projection, de rêve, une dimension aussi de relation dans le bonheur, et une relation liée au corps aussi, c'est-à-dire aussi à la santé, c'est-à-dire aussi à la satisfaction de ne pas avoir de souffrance, ce qu'on retrouve aussi dans le bouddhisme déjà, avec cette quête de sérénité, cette quête d'épanouissement personnel et cette recherche d'effacer la souffrance. Tandis que dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, dans l'Égypte ancienne aussi, on retrouvait une philosophie de recherche du bonheur. On retrouvait chez Hésiode, par exemple, le fait qu'il fasse référence à un passé lointain qu'il appelait l'âge d'or, où d'après lui, l'humanité connaissait déjà le bonheur. Chez les stoïciens, finalement, il y a cette recherche de sagesse, en disant que cette quête de sagesse, et lorsqu'on arrive à cette notion de sagesse, ben rien ne pouvait entamer le bonheur du sage. Donc c'était aussi une quête de sagesse et de compréhension du monde. Chez les épicuriens, c'est cette absence de troubles qu'on peut retrouver chez les bouddhistes aussi, ce contrôle des désirs, la santé du corps. Autrement dit, voilà, le bonheur, c'est du plaisir, mais des plaisirs stables, sans excès. Donc on voit que la philosophie chez les très anciens était déjà une recherche de ce bonheur. On l'a retrouvé du point de vue philosophique de la façon la plus finalement la plus puissante et la plus essentielle chez Spinoza, avec son éthique de la joie. Le bonheur, donc, c'est l'essence même de l'homme, dit-il, et le désir d'être heureux, de bien vivre, là, de bien être en lien avec son temps, avec son environnement. On retrouve aussi une forme d'écologie aussi personnelle dans cette recherche du bonheur. Si on cherche vers d'autres pistes, je parlais de Bouddha tout à l'heure, du bouddhisme, avec cette recherche de sérénité, on la retrouve aussi dans le Japon ancien, avec la voie du zen, qui est aussi une voie de recherche d'épanouissement, de bonheur intense. Et même dans la Chine ancienne, il y avait donc cette quête de la félicité. La recherche de la félicité, c'était la rétribution pour ceux qui se conforment à la volonté du ciel. Donc on peut voir là à la fois les directives, on va dire, des dieux ou des empereurs qui étaient le fils du ciel, et puis en même temps aussi la volonté du ciel, ça peut être aussi considéré comme aussi la force de la nature. Donc finalement, chaque civilisation, chaque époque a développé ses propres stratégies dans sa quête du bonheur. Et donc on peut imaginer que chez nos très lointains ancêtres, les hommes préhistoriques, une fois que l'on avait assuré la survie de la famille, la survie du clan, ce qui était quand même une quête très importante, il y avait ce temps de la relation, ce clan qui nouait des relations et qui fêtait ensemble certainement les réussites, peut-être aussi les deuils. On vient de retrouver dernièrement un des plus anciens instruments de musique du monde, qui avait donc plusieurs dizaines de milliers d'années, et qui est en fait une flûte. Et cette flûte, on peut encore en jouer aujourd'hui. Donc créer de la musique, ça peut être l'accompagnement d'une cérémonie, ça peut être aussi simplement de la joie. On sait que en tapant sur différentes surfaces, on obtient le premier instrument facile à utiliser, qui sont des percussions. On en a retrouvé dans des lieux, des grottes, des fouilles. Et puis ces peintures rupestres qui pouvaient avoir comme raison une recherche de mystère, une volonté de réussir les prochaines chasses, mais peut-être aussi des raisons esthétiques. Le bonheur aussi d'associer des formes, des couleurs, et de trouver dans la culture, dans les arts, dans la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, des sources aussi de bonheur. Puisque de tout temps, on va partager des valeurs pour se sentir bien ensemble, partager des croyances, développer une organisation sociale de manière à se laisser plus de temps à développer des notions d'épanouissement, de bien-être, qu'on pourrait appeler bien sûr du bonheur. Donc j'espère avoir répondu à cette question, qui est vaste bien sûr, et dont personne n'a la réponse absolue. Il semble, en tout cas, en effet, que depuis les temps les plus anciens, on recherche le bonheur, et cette quête du bonheur occupe beaucoup notre esprit, une fois que nous avons réussi à répondre à nos besoins essentiels de survie. Votre route. Il arrive que certaines personnes entrent dans votre vie et que vous sachiez tout de suite qu'elles étaient censées y entrer. Elles servent une sorte de but, vous enseignent une leçon ou vous aident à comprendre qui vous êtes ou qui vous voulez devenir. Vous ne savez jamais qui sont ces personnes. Un compagnon de chambre, une voisine, un professeur, un coach. Une amie, un amoureux, un parfait étranger parfois. Dès que vous les regardez dans les yeux, vous savez que ces personnes affecteront profondément votre vie. Il arrive que des choses horribles ou douloureuses surviennent dans votre vie. À la réflexion, nous réalisons que, sans surmonter ces obstacles, nous n'aurions jamais réalisé notre potentiel, ni démontré notre force, notre volonté, notre courage. Tout se produit pour une raison. La maladie, les blessures, l'amour, les moments de grandeur comme de stupidité testent les limites de notre âme. Sans eux, la vie nous paraîtrait comme une longue route bien droite et bien plate qui ne mène nulle part. sûre et confortable, mais ennuyeuse est son but véritable. Les personnes que vous rencontrez et qui affectent votre vie, ainsi que les succès et les contrastes que vous expérimentez, créent la personne que vous êtes. Les plus mauvaises expériences sont souvent les plus instructives. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le site de Radio Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux.
Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the is their life on Mars. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up. Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on.